du Radio Silence, bonjour. Ceci est la seconde carte postale depuis Yaoundé, donc une carte postale sur le Cameroun toujours, après la première carte postale qui décrivait déjà l'état de santé sur lequel on va continuer immédiatement. Enfin, on va débuter cette émission par la poursuite de cet état de santé. Disons que je vais, pour cette émission, si vous rapportez un ensemble de flashs qui me sont parvenus au cours des entretiens que j'ai comme ça, de façon tout à fait surprenante. C'est une surprise hein, quand on se promène, de rencontrer des gens et de discuter ici et là. Donc le premier flash, c'est celui sur la maladie. Donc on m'a rapporté en rigolant que les grands de ce monde... Il y a d'ailleurs un fléau ici qui est assez particulier, c'est les AVC. Les AVC frappent. Et ça frappe tout le monde, presque, et surtout les dirigeants. Donc, il y a des dirigeants qui sont frappés et qui sont évacués à l'étranger. J'ai demandé pourquoi. On m'a dit, ah ben oui, vous savez, ils sont obligés d'être évacués parce qu'entre eux, il y a des règlements de compte. Alors, c'est quoi le règlement de compte? C'est qu'il ne faut surtout pas être malade. Si vous arrivez à l'hôpital, vous risquez de vous faire piquer parce qu'un rival va passer par là et demander au personnel hospitalier de vous injecter peut-être du formol pour en finir avec vous. C'est une façon de régler les comptes politiquement, c'est une façon de régler les comptes de manière professionnelle. Quand c'est pas cela, c'est le poison. Alors, les gens ont l'AVC, ils essayent de traîner le plus possible parce qu'ils ont peur d'aller à l'hôpital, hein, vous savez, parce qu'ils sont sûrs de ce qui va se passer. Et ça fait que l'AVC se complique, le temps d'y aller, d'être évacué, c'est pas très tard, mais ça laisse de grosses, grosses séquelles. Donc, en Afrique aujourd'hui, si vous n'êtes pas mort de maladie, parce que les centres de santé sont très, très éloignés, vous vous souvenez de la première carte postale, si vous n'êtes pas mort parce que vous êtes pauvre, si vous n'êtes pas mort de tout cela, ben vous mourrez parce qu'un rival vous en veut et il aura payé quelqu'un à l'hôpital. Donc le personnel hospitalier fera le boulot, enfin le sale boulot si on peut le dire. Ça c'était le premier flash, quelque chose qui m'a quand même touché au cœur parce que voilà, ce n'est plus de cette façon-là qu'on va régler ces choses-là. Et ça passe pratiquement inaperçu parce qu'en Afrique, il faudrait qu'on prenne cette habitude de l'autopsie, il n'y a pas d'autopsie, donc à partir de là, on fait ce qu'on veut, il n'y aura pas de contrôle, il n'y aura pas de personne sanctionnée et l'hôpital continuera comme d'habitude, quoi. Le business as usual. Le deuxième flash que j'ai eu en discutant, c'est celui sur la mafia éducative au Cameroun. Alors c'est quoi cette mafia? J'ai demandé, parce qu'il y a une explosion du business de l'école privée, depuis la maternelle jusqu'à l'enseignement supérieur. Ça dure un moment, depuis que l'école publique est totalement débradée et que les profs et les enseignants sont corrompus, excusez du peu. Donc les diplômes camerounais, on le sait, ne valent plus grand-chose. Le niveau scolaire est carrément à la ramasse. Qu'est-ce qui se passe? Il semblerait, d'après l'homme du peuple, que ce sont, pas seulement l'homme du peuple, hein, ce sont des gens qui me disent, des gens bien informés, bien dans la cour, qui me disent que, vous savez, ici, ce sont les fonctionnaires de l'éducation nationale qui sont derrière ces établissements scolaires qu'ils créent. Moyennant quoi, puisqu'ils sont au courant des procédures, ils reçoivent et organisent les subventions pour eux. Et c'est encore pire parce que en ce moment, ils créent des librairies, ce sont eux qui font le business des libraires. Dans les librairies, qu'est-ce qui se passe? Ils font tout pour que ce soit les livres qu'ils auront sélectionnés dans une combine avec certains enseignants qui auront fait certains livres au cours de l'année. Et ça fait que chaque année, le programme peut changer. Donc, d'une promotion à une autre, c'est pas forcément les mêmes livres qu'on va éditer ou insérer, intégrer dans le programme. Du coup, il y avait une habitude qui consistait à ce que les grands frères passent leur bouquin aux petits frères. Ça peut plus marcher parce que le livre d'après va être autre chose. Comment peut-on formater un peuple si à chaque année on change de programme et que le frère et la sœur n'aient déjà pas lu le même bouquin? C'est absolument... Je veux dire, il n'y a pas de mots pour qualifier cela. Et ça, c'est la mafia éducative. Mais ça marche comme ça ici, et l'homme du peuple le sait. Et le troisième flash que je voulais partager avec vous, qui m'a touché, j'étais dans un bar, je me suis arrêté un jour, après que je sois allé marcher du côté de du parcours vital au parcours de santé totalement fracassé. Là, franchement, c'est une honte monumentale. Parce que ce parcours vital, c'était supposé être un parcours de santé. Beaucoup de gens y allaient, on allait y marcher, on allait faire des exercices physiques. Et maintenant, il est tout délabré. Les toilettes, vous ne pouvez pas entrer, elles sont cassées. Il y avait un robinet d'eau potable, c'est pas possible, il n'existe plus, il a été balayé. Les carreaux, ça ressemble. Enfin, c'est le foutoir. Bon, je suis allé, il y a le mont Phoebe, on peut marcher, on peut monter la colline. Il y a un très beau monastère d'ailleurs, avec un énorme caillou que j'ai découvert. Oh. Qu'ils ont daté du monolithique énorme sur le site de ce monastère, qui lui par contre est bien entretenu. C'est les missionnaires, hein. C'est pas l'État français, c'est pas l'État camerounais, pardon, c'est pas l'État français, c'est pas l'État camerounais. Donc de retour de là-bas, j'étais morte de soif, j'arrive dans ce quartier où j'habite, et c'est le quartier de Yaoundé 4, et j'entre dans un bar, je demande à boire. Quelque chose, j'ai très soif, de très très glacé. On me dit, ah mais non, mais depuis 8 heures, il n'y a pas d'énergie, on est coupé. Il était 13 heures, j'avais traîné un peu, j'ai discuté par-ci, par-là, au gré des rencontres. C'est vrai, on est libre, hein, on est en vacances, enfin en vacances, oui, bon, on peut le dire comme ça. On se balade, on écoute, mais c'est toujours studieux, hein, c'est des vacances studieuses. Et d'électricité depuis 8 heures, il est 13 heures. Et comment vous allez faire? Ah ben on a l'habitude, c'est comme ça. Entre-temps, je prends quand même ce qu'il y a parce que je meurs de soif et je m'installe. Et puis, il y a trois jeunes qui étaient par là. Et puis, on se met à discuter. Ah oui, c'est vous qui habitez à côté, oui, vous êtes là, oui. Oh, vous savez, ici, nous, pouf, on est habitué à ce genre de choses. C'est la merde, de toute façon, le pays, ça va pas. Oui, qu'est-ce qui se passe? Nous, on est jeunes, on n'a pas de boulot. Les maisons, le coût de la vie est excessivement cher. Qu'est-ce qu'ils vous disent? On ne peut pas vivre autrement ici qu'en entrant dans la corruption parce que c'est tout simplement impossible. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il n'y a pas d'avenir. Dans ce pays, il n'y a pas d'amour entre les Camerounais. Oui, j'ai appris cela. Et qu'ici, on préfère l'étranger au national. Okay? Et que si vous allez en Guinée, le Cameroun fournit l'énergie à la Guinée, équatoriale à côté. Mais la ville frontalière entre le Cameroun et la Guinée n'est déjà pas électrifiée, alors que tout de suite, quand vous entrez en Guinée, c'est électrifié, c'est étonnant. Et ce jeune, un de ces jeunes me dit, quand vous allez en Guinée, même un petit enfant peut vous contrôler, peut demander à voir vos papiers et le flic va le soutenir, alors qu'ici, c'est totalement l'inverse. Bon. Ils sont dégoûtés, ils étaient trois, ils ont dit beaucoup de choses. Et puis ils m'ont parlé, j'ai demandé, mais comment? Ils me disent, oui, mais le problème c'est qu'on est tous là, on attend, on essaie de partir. Oui, vous allez où? Bon, on va à l'étranger. Comment vous faites? Vous allez prendre cette rivière, vous allez mourir dans l'eau, là, vous êtes candidat? Alors ils m'ont dit, ben oui, qu'on meurt lundi ou mardi, c'est la même mort. C'est ce qu'ils m'ont dit. Ah d'accord. Donc vous êtes prêts à aller? Oui, mais madame, au moment où on vous parle, là, tout de suite. On a cinq amis qui viennent de rentrer, ils ont réussi. Vous connaissez le circuit, comment on fait d'ici? Ah oui, parfaitement, on a tout, on a les prix, on a les passeurs, on a tout ce qu'il faut pour y arriver. Et de toute façon, il n'y a pas d'avenir ici, on partira. Alors, c'est dans ce contexte, ouf, absolument difficile à entendre et à gérer, que j'ai repensé déjà au niveau scolaire en Afrique qui ne vaut plus rien. Enfin, au Cameroun, qui ne vaut plus rien et qui fait que tous les grands de l'Afrique, enfin du Cameroun, quand j'ai dit Cameroun, Afrique, j'ai fait exprès, c'est la même chose un peu partout, surtout en Afrique centrale, envoient leurs enfants à l'étranger ou alors ici dans des grandes écoles internationales sur place. Et idem pour la santé. Quand on une élite sait parfaitement que dans ces hôpitaux on tue, quand une élite sait parfaitement que l'école n'est pas à niveau mais continue à protéger une mafia éducative. Qu'est-ce qu'on dit? Qu'est-ce qu'on fait? Franchement, j'ai pas de mots, je ne sais pas quoi dire. Sauf que, en plus de cela, y a des coupures d'électricité fréquentes, c'est tous les jours, c'est systématique, c'est écœurant. Il y a des coupures d'eau fréquentes, anarchiques, c'est écœurant. Mais dans les années 85, le FMI nous avait dit qu'il fallait privatiser les entreprises d'État, hein, les grandes entreprises, les grands groupes, la voie ferrée, l'eau, l'électricité, etc., ces choses cruciales. Je veux dire, pratiquement toute l'économie du Cameroun, les grands pans comme la téléphonie avec Orange qui trône, bien sûr il y a MTN et un nouveau qui s'appelle Nextel qui n'est pas mal, je ne sais pas c'est quoi cette compagnie. Tout est pris par l'étranger. entre les mains des étrangers qui gèrent comme ils veulent. Et je vous assure que c'est encore pire. Et cette politique énergétique qui manque cruellement en Afrique est, comme je dirais, le cœur, l'épicentre du sous-développement en Afrique. Mais ça, on en parlera la prochaine fois. Amis de Radio Silence, je vous dis à bientôt en attendant le Super Tuesday de demain aux États-Unis où on espère vraiment beaucoup la victoire de Bernie Sanders parce que il faut que ça change. Je vous dis à bientôt.